Accent d'Europe, Alexis Bédu.
Bonjour à tous. Catastrophe naturelle, incendie à répétition, mais aussi secours d'urgence aux personnes, les pompiers sont sollicités quotidiennement. En Australie, ils se battent en ce moment même contre les flammes. Depuis le mois de septembre, c'est l'équivalent de la surface de l'Irlande qui a brûlé. En France, les sapeurs-pompiers professionnels, eux, sont en grève depuis fin juin. Manque d'effectifs, mauvaises conditions de travail, manque de considération. Les griefs sont nombreux et ils visent l'État qui est leur employeur. Reportage sur ce mouvement social sans précédent à Amiens, dans le nord de la France, Lise Verbeck.
La grève des pompiers professionnels a démarré le 26 juin. À Amiens, comme dans beaucoup d'autres casernes en France, le mouvement a été suivi dès le début. La mobilisation, d'abord peu visible, s'est étoffée au fil des mois et les pompiers sont venus grossir les cortèges des mobilisations contre la réforme des retraites tout au long du mois de décembre. Cousus sur les uniformes, un macaron en grève, ou encore des messages comme « marre du mépris politique ». Thomas Deloison est pompier professionnel depuis 13 ans. Au fil des années, il a vu les conditions de travail se dégrader et la fatigue qui s'installe peu à peu.
Au niveau de l'organisation de la journée, on est toujours sur des cycles de 24 heures. Le régime de travail serait beaucoup plus adapté en 12 heures. On est un des derniers métiers à travailler en garde de 24 heures. Mais on sent la fatigue, alors physique, mais aussi beaucoup psychologique, parce qu'on est amené à voir des choses que tout le monde ne pourrait pas forcément voir. Maintenant, pour nos décideurs, c'est comme ça qu'on le prend en tous les cas, on n'est plus que des numéros. Et c'est-à-dire que la souffrance physique ou psychologique n'est pas du tout prise en compte.
Une souffrance que ressent aussi Bernard dans le métier depuis 18 ans. Lui qui dénonce également le manque d'hommes. Dans sa caserne, le nombre de pompiers professionnels a été divisé par 2 en 20 ans. Et à cela s'ajoute le manque de moyens.
Des véhicules qui vieillissent, qui partent en réparation, qui ne sont pas remplacés forcément par les bons camions. Par exemple, pour parler encore concrètement, des véhicules comme les CCF, camions citernes, feux de forêt. Certes, on n'a pas de feux de forêt, mais encore cet été, comme l'année dernière encore, beaucoup de feux de champs, avec des manques de CCF, clairement, ou des véhicules pas adaptés, justement, pour aller dans les champs.
Cette grève est aussi l'occasion pour les pompiers de rappeler les problèmes de sécurité. Depuis quelques années, ils sont de plus en plus victimes d'agressions en intervention.
Avec armes ou sans armes, on s'est déjà tous plus ou moins fait agresser. Sans dire que les agressions physiques sont jusqu'à être tous les jours, mais les agressions verbales, on peut dire que c'est tous les jours. Les pompiers sont le dernier rempart, en fait. Donc, on se prend toute la misère du monde en pleine face. Et les agressions se produisent plus maintenant qu'en milieu urbain. Pour être en partie en secteur rural, des agressions verbales, on en a tout le temps, et des agressions physiques un peu moins, mais ça reste régulier. Nous, quand on vient, c'est pour aider les gens, donc on ne comprend pas forcément de se faire agresser. Personnellement, j'ai déjà pensé à changer, je ne l'ai pas fait, et on est de plus en plus à penser à changer de branche, ce qui n'arrivait pas avant.
Selon les syndicats, il y a eu une dizaine d'agressions de pompiers depuis septembre dans le département de la Somme, avec dépôt de plainte systématique. Lors de la dernière agression, l'auteur a été condamné à 5 mois de prison ferme. Le ministre de l'Intérieur a proposé d'équiper les pompiers de caméras piétons, mais la mesure divise les professionnels. Pour certains, cela risque d'énerver encore plus les gens. Pour d'autres, cela peut valoir le coup de l'attester. Autre revendication des pompiers, une reconnaissance de leur travail comme métier à risque. David Fronval est le président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers dans la Somme.
On demande à ce que le risque de cancer lié aux particules fines présentes dans les fumées d'incendie soit reconnu de manière nationale et que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la santé des sapeurs-pompiers. Beaucoup d'études ont lieu, notamment au niveau européen, mais jusqu'à présent, l'État français s'est bloqué dans certaines réponses, en allant même jusqu'à nous expliquer que les fumées d'incendie françaises sont moins dangereuses que les fumées d'incendie de nos amis belges ou alors des incendies américains, par exemple.
Et en effet, peu d'études existent en France et l'incendie de l'usine Lubrizol, classée haute dangerosité à Rouen fin septembre, a relancé le débat. En plus d'une reconnaissance comme métier à risque, les syndicats réclament la prime qui va avec, donc une augmentation de la prime de feu.
On a depuis 1990 cette prime à hauteur de 19%, alors que les autres métiers à risque, notamment dans la police ou la gendarmerie, sont eux à 28%. Donc on demande à ce que cette prime de feu soit réévaluée à hauteur de 28%.
Mais les négociations pour obtenir cette augmentation piétinent. Les pompiers professionnels dépendent de deux directions. D'un côté l'État, chargé de l'opérationnel, de l'autre les départements, chargés de les payer. Si bien que l'État rejette le problème sur les collectivités. Or, cela coûterait trop cher, selon Stéphane Aussoulier, président du syndicat départemental d'incendie et de secours dans la Somme. Il demande à l'État de mettre la main à la poche.
Si le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire toute la difficulté aujourd'hui que l'on a, accepte l'idée de changer le décret ou l'arrêté qui est relatif à la prime de feu, derrière, nous, ça nous oblige, conseils départementaux et maires des communes qui finançons les services départementaux d'incendie et de secours, à trouver le budget pour un département comme la Somme. La simple augmentation de la prime de feu au niveau qui est escompté, toutes charges confondues, je crois, c'est 700 000 euros. Je ne sais pas comment je la finance. Ce sera au détriment des investissements qu'on fait dans les casernes.
De nouvelles tables rondes au ministère sont prévues en janvier. En attendant, les pompiers sont toujours en grève, mais ils sont astreints au service minimum. Pour mobiliser la population et rendre visible leur mouvement, ils continuent d'afficher des banderoles en grève sur les camions.
Shortly before 1 o'clock on Wednesday morning, an inferno broke out in a tower block in West London.
Oh my God,
les pompiers de Londres ciblent des critiques après l'incendie de la tour de Grenfell. La tragédie avait fait 72 morts parmi les habitants de cette HLM du nord de la capitale britannique. C'était en juin 2017. Le rapport de l'enquête publique sur ce drame n'est pas tendre avec les pompiers. Il explique que des vies auraient pu être sauvées s'ils avaient fait évoluer leur stratégie. Les pompiers avaient notamment ordonné aux habitants de ne pas bouger de chez eux. Les explications à Londres de Marie Billon.
L'ampleur de la tragédie de Grenfell est due à des manquements systématiques dans l'organisation des pompiers de Londres. C'est la conclusion qu'a tirée Sir Martin Mourbic, ex-juge à la Cour suprême en charge des investigations. Les pompiers s'attendaient à être pointés du doigt. Ils avaient même mis en place une équipe de soutien psychologique pour la sortie du rapport. Les manquements sont en effet multiples selon les conclusions de l'enquête. Premièrement, il n'y avait pas de plan d'évacuation de la tour. Puis les pompiers n'auraient pas dû demander aux habitants de rester chez eux au moment où les escaliers étaient encore praticables. Le rapport note aussi un manque de communication qui a empêché de partager des informations importantes, notamment concernant la localisation des victimes. Enfin, le personnel n'avait pas la formation pour gérer un accident d'une telle ampleur. La chef des pompiers de Londres à l'époque, Danny Cotton, a été spécialement mise en cause pour son insensibilité remarquable dans le rapport. Lors de son témoignage devant le juge, elle avait notamment dit qu'elle ne changerait rien à la stratégie adoptée cette nuit-là. Avant de d'abord refuser de démissionner, elle a finalement annoncé son départ anticipé en fin d'année. Andy Rowe a été nommé pour prendre sa suite. C'est lui qui a mis fin à cet ordre du « Restez chez vous la nuit de l'incendie ». Lors des auditions, il a aussi dit que s'il avait eu les commandes, il aurait changé plus tôt la stratégie. Il aurait plus rapidement abandonné le combat contre les flammes pour se concentrer sur le sauvetage des habitants. Mais les pompiers de Londres se sont aussi défendus, en rappelant notamment les sévères coupes budgétaires auxquelles ils ont été soumis ces 10 dernières années. Depuis 2009, ils ont dû économiser l'équivalent de plus de 100 millions d'euros à cause des restrictions budgétaires imposés par le gouvernement. Ils ont notamment été privés de 27 véhicules de leur flotte d'intervention, 10 casernes de pompiers ont été fermées et leurs effectifs ont été réduits, 552 soldats du feu en moins.
Au Portugal, pas facile de concilier son activité de pompier et son vrai métier. 90% des soldats du feu y sont volontaires, bénévoles. Ils prennent leur garde dans les casernes en dehors de leurs heures de travail et ils doivent compter sur la complicité de leurs employeurs, pas toujours très ouverts à cette double activité. Reportage à Lisbonne de Marilyn Darcy.
La nuit de veille commence à la caserne des pompiers volontaires du centre de Lisbonne. L'équipe de nuit n'est pas encore au complet en cette fraîche soirée de décembre. Patrick, lui, est déjà en poste. Âgé de 30 ans, ce Portugais né en France exerce son volontariat depuis déjà 12 ans. Un rêve de gosse, reconnaît-il.
Je viens d'une petite ville du centre-nord de Portugal,
Il s'appelle Mortagua. Quand j'ai fait mes 18 ans, je me suis inscrit dans les pompiers volontaires. J'ai fait ma formation initiale. Il y a 3-4 mois, j'ai demandé d'être transféré ici à Lisbonne, car maintenant j'habite ici.
À Lisbonne, les pompiers de l'association des volontaires doivent assurer une permanence de nuit rotative de 19h à 7h bénévolement. Ensuite, Patrick devra enchaîner sur une journée de travail au service financier d'une banque. Lorsqu'il était pompier à Mortagua, il a été réquisitionné 2 jours sur les feux de forêt. Son employeur d'alors n'avait pas apprécié.
À l'époque, mon employeur n'a pas très très bien réagi quand je suis revenu. Je lui ai expliqué que c'était une situation d'urgence. Il m'a simplement dit, tu dois choisir entre les pompiers ou ton travail. Je pense que pour les employeurs, c'est une chose qu'ils ne doivent jamais demander. Parce que on a notre travail, mais on a aussi pompiers, même volontaires, mais professionnels dans l'action. Et du moment où un employeur nous demande de faire un choix, je ne vais pas hésiter, je vais choisir les pompiers. Parce qu'il y a des personnes qui dépendent de nous. Même si c'est assez compliqué pour notre vie personnelle.
Au fur et à mesure que le temps passe, les talkie-walkie commencent à crépiter. Le commandant de la caserne veille à la bonne marche du service. Il est volontaire, comme ses hommes, et seuls les ambulanciers et le commandant en second, chargé du standard, sont des employés de l'association. Les entreprises ne réagissent pas toujours bien, reconnaît le commandant Paolo Vittorino.
Les patrons n'aiment pas trop ça, et il arrive que les pompiers perdent leur travail. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est problématique pour une petite entreprise. Si par exemple, j'ai 2 employés dont j'ai besoin en production, et que soudain l'un disparaît pour aller faire le pompier, dans la réalité, je perds la moitié de ma force de travail, parce que je n'ai personne au service commercial ou à la production. Je peux comprendre ça, car je suis moi-même chef d'une petite entreprise. Mais souvent, c'est par pur égoïsme.
L'employeur touche l'équivalent du salaire de son employé si celui-ci s'absente dans le cadre de ses fonctions de pompier. Mais la compensation est insuffisante, estime le commandant, et l'emploi s'en ressent. L'ambulance démarre sur les chapeaux de roue. Une femme est signalée dans une rue du centre-ville. Elle a fait un malaise. Patrick rejoint les ambulanciers qu'il devra assister. Malgré la fatigue que traduisent ses yeux cernés de noir, Patrick est concentré. Comme volontaire, il a reçu 1 an de formation théorique et pratique. Les volontaires qui le souhaitent peuvent aussi se spécialiser comme ambulancier ou secouriste. C'est son cas. La compétence professionnelle est là, mais le métier est dur. Le taux d'abandon est de plus de 60%. Patrick avoue son harassement.
Les pompiers volontaires au Portugal ont beaucoup de problèmes. Au niveau interne, au niveau du personnel, au niveau du matériel, on a besoin d'aide. Mais aussi au niveau moral, on a besoin de beaucoup plus de formation, on a besoin de beaucoup plus de préparation. Et tout ça demande du temps. Et quand on travaille 8-9 heures, ensuite on vient chez nous, ensuite on doit aller aux pompiers. Ça arrive un moment où c'est fatigant. Et quand on a notre employeur qui nous tombe dessus, on peut dire, notre famille, que beaucoup de fois on arrive fatigué, mais elle ne comprend pas pourquoi on y allait.
Dans la rue, les ambulanciers font une première observation de la femme allongée sur le sol. Ils décident de l'emmener à l'hôpital. Une fois terminée la prise en charge, les volontaires pourront retourner à la caserne. Patrick, lui, va boire un énième café. Demain, son travail l'attend. La nuit va apporter son lot d'accidents et d'agressions. Une nuit de sacerdoce.
Plus d'un mois de blocage des trains et du métro parisien, des manifestations dans tout le pays. La réforme des retraites en France est un des plus longs conflits sociaux de ces 50 dernières années. Alors comment expliquer cette extrême tension du dialogue social dans l'Hexagone, cette difficulté à trouver un consensus entre partenaires sociaux? Et qu'en est-il du rôle des syndicats chez nos voisins européens? On en parle aujourd'hui avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Alexis.
Pourquoi les discussions sur les les réformes sont-elles souvent si conflictuelles en France ?
Sans doute parce que, malgré l'adoption depuis 15 ans de multiples dispositions visant à améliorer le dialogue social, on demeure en France dans une logique de concertation préalable en matière de législation du travail, voire même de simple consultation dans les autres domaines. Une concertation de 18 mois s'est ainsi déroulée avant la présentation de la réforme des retraites. Elle ne visait pas à dégager un consensus et elle n'a débouché que sur un relevé de conclusions identifiant les désaccords qui divisent les partis en présence. On ne risque pas d'avancer dès lors que le gouvernement affirme un objectif de principe, en l'occurrence un système universel réunifiant les multiples régimes de retraite, qu'une partie des organisations syndicales refuse catégoriquement.
Que se passe-t-il en la matière chez nos voisins européens ?
D'abord, et c'est une différence importante par rapport à la France, le rôle essentiel des organisations syndicales consiste à négocier avec le patronat, par branche ou par entreprise, l'évolution des salaires, les conditions ou la durée du travail, la formation, etc. Mais il est vrai également qu'un peu partout, les organisations syndicales sont consultées, amenées à prendre position sur les évolutions de la législation, voire invitées à les négocier. Ainsi, en Espagne, des accords nationaux dits interconfédéraux entre confédérations patronales et de salariés ont longtemps servi de base à la législation du travail, mais ils ont perdu de leur importance. En Italie, des consultations tripartites, salariés, patronat, gouvernement, ont été menées et des pactes signés, mais l'autonomie de décision gouvernementale n'a cessé de s'accroître au fur et à mesure que s'aggravait la désunion syndicale et que s'approfondissait la crise. Par exemple, la réforme du droit du travail de Matteo Renzi a provoqué une grève générale en Italie en 2014, mais a finalement été imposée par le gouvernement. Un peu partout, en Suède notamment, la quasi-disparition des négociations centralisées au profit de négociations sectorielles a fait reculer le rôle politique et sociétal des syndicats.
Même en Allemagne et au Royaume-Uni, où les syndicats sont pourtant puissants.
Dans ces deux pays, les confédérations étaient traditionnellement associées à la réflexion programmatique des partis de gauche. Le Trade Union Congress, TUC, avec les travaillistes britanniques, le DGB avec les sociaux-démocrates allemands. Or, outre-Manche, les liens syndicats-partis ont été pratiquement réduits à néant avec l'avènement du New Labour de Tony Blair. En Allemagne, ces liens se sont singulièrement distendus, surtout depuis la mise en œuvre en 2003-2005 de la libéralisation du marché du travail par le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Ces réformes ont été adoptées malgré une large réticence, voire une opposition des syndicats qui ont dû finalement s'incliner. Reste qu'outre-Rhin, l'élaboration des normes sociales ne se fait pas sans les syndicats dans la mesure où le pouvoir politique cherche en général à construire un consensus préalable avant de proposer de nouvelles législations. D'où une moindre conflictualité. Mais la défense des intérêts quotidiens des salariés, notamment salariaux, reste la fonction essentielle des syndicats allemands.
Concernant le taux de syndicalisation, je suppose qu'il n'est pas le même partout.
Avec moins de 9% de taux de syndicalisation, la France est l'un des États les moins syndiqués d'Europe. L'Allemagne, qui dépassait les 30% il y a 30 ans, n'affiche désormais que 16% de syndiqués, soit beaucoup moins que l'Italie, 34%, la Belgique, 50% et surtout la Scandinavie, 65%. Il faut dire que dans ces derniers pays, l'accès à la plupart des prestations sociales et aux bénéfices des conventions collectives est réservé aux syndiqués. Ce n'est pas le cas en France où 98% des salariés sont couverts.
Alors dans ce contexte, quel rôle pour les syndicats français peuvent-ils vraiment défendre les salariés ?
C'est évident au sein des entreprises en matière de conditions de travail et en matière salariale pour les grandes entreprises. Le problème est que le salaire n'est pas un sujet dans la plupart des petites entreprises. Surtout, comme il n'y a plus guère de négociations salariales au niveau des branches, les confédérations syndicales françaises et leurs grands affiliés sectoriels n'ont de ce fait pas la main sur les salaires et doivent se contenter de cette concertation sociale qui peut les enfermer dans un jeu de dupes. Chez nos voisins, les négociations salariales se font par branches d'activité et les grandes organisations professionnelles peuvent afficher des succès tangibles en la matière. On pense en particulier au syndicat de la métallurgie en Allemagne. Dernier point, faute d'une démocratie locale vivante et de la faible légitimité des gouvernants, les confédérations syndicales de salariés sont amenées à endosser en France un rôle de porte-parole des mécontents, ce qui les pousse à l'intransigeance et les met peu en capacité d'infléchir les décisions gouvernementales.
Merci Daniel Vigneron pour toutes ces explications.
À bientôt Alexis.
Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée par Françoise Grelot. Pour partager et nous réécouter, rendez-vous sur RFI.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain. RFI.